Preghiamo. Signore Dio nostro.
Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte comme son indivisible unité.
Amen.
Voici le moment des remerciements avec d'abord le cardinal archevêque de Kinshasa, son éminence Fridolin Ambongo.
Bonsoir à tous. Je prends la parole pour un petit mot de remerciement au nom du peuple congolais.
Comme nous le savons, ce peuple parle français et je parlerai donc français.
Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec grande joie que nous avons accueilli la reconnaissance le 25 novembre 2024 par le pape François du martyr du serviteur de Dieu Floribert Bwanachui Binkositi. En ce dimanche de la très sainte Trinité, nous sommes comblés de façon spéciale car ces choses accomplies. Le serviteur de Dieu Floribert Bwanachui est proclamé bienheureux. L'Église Famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo de voir encore l'un de ses fils parmi les fidèles laïcs reconnus comme exemple et modèle de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Au nom de tous les archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et de tout le peuple congolais, ici représenté par une forte délégation officielle, le représentant personnel du chef de l'État, des membres du gouvernement, du Parlement, des officiels, des notabilités, etc., ainsi qu'en mon nom personnel, nous voulons remercier le Saint-Père. Le pape Léon XIV, représenté ici par son éminence Marcello Cardinal Semerano, préfet. Préfet du dicaster des causes des saints, qui a présidé la cérémonie de proclamation du bienheureux. Pour la sollicitude du siège apostolique à l'égard de la République démocratique du Congo en général et de notre Église locale en particulier, Éminence, veuillez agréer l'expression de notre gratitude pour cette belle célébration eucharistique. Aussi, nous saisissons cette occasion pour remercier et féliciter la famille biologique du bienheureux Floribert, ici représenté. Comme nous le savons, la maman est là, la maman de Floribert, ses frères sont là. Sûrement que cette famille de Floribert a contribué par l'éducation dans la foi à ce que représente Floribert aujourd'hui, présenté comme modèle d'une vie chrétienne accomplie pour des générations d'aujourd'hui et futures. Merci de tout cœur. Remerciement particulier à la communauté Saint-Égidio. Ici représenté par Marco, Andrea et toute la communauté. Qui est la famille spirituelle de Floribert. C'est cette famille spirituelle qui a porté la cause de béatification du serviteur de Dieu Floribert. Nous en récoltons aujourd'hui le fruit et les retombées en grâce. Puissiez-vous, chers frères et sœurs, membres de la communauté Saint-Égidio, accepter notre profonde gratitude. Que le Seigneur bénisse votre travail d'ambassadeur de valeurs évangéliques. Béatification de Floribert Bwanachui au plus fort de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, notamment à Goma, où il a vécu de façon héroïque les valeurs évangéliques jusqu'au martyr de sang, est un signe de la présence de Dieu qui se tient et marche au milieu de son peuple, le peuple congolais qui souffre. Cette présence de Dieu nourrit notre espérance en une paix durable pour notre pays par la grâce de Dieu lui-même. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous accueillons cette béatification comme un appel fait aux fidèles catholiques congolais et à toute personne de bonne volonté à plus d'engagement pour davantage de transparence dans la gestion de la chose publique, de justice, de paix dans la foi et la confiance au Christ ressuscité. Aussi, voulons-nous rassurer le très Saint-Père, le pape Léon XIV, que notre conférence épiscopale, la SENCO, va prendre des orientations pastorales pour la mise en œuvre de la lutte contre la corruption qui est une gangrène de notre société. Nous prions que le bienheureux Floribert Bwanashui intercède pour notre pays, la République démocratique du Congo. Réitérant notre gratitude à son éminence le cardinal Marcello et à vous tous qui êtes venus nombreux y participer, nous saisissons la présente occasion pour redire notre attachement profond au successeur de l'apôtre Pierre. Aussi, nous lui demandons de bénir nos familles, nos communautés chrétiennes, nos diocèses et notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Et maintenant, le fondateur de la communauté Sant'Egidio, Andrea Riccardi.
Éminence, chers amis, je voudrais avant tout débuter par une pensée affectueuse de reconnaissance au bien-aimé pape François, qui a reconnu le martyr du serviteur de Dieu Floribert et qui en a témoigné dans son discours mémorable aux jeunes de Kinshasa. Et comment ne pas être reconnaissant au Saint-Père Léon XIV qui a décrété la béatification de Floribert Bwanashui, et nous avons reçu des mains du cardinal Semeraro le décret. Nous sommes profondément reconnaissants au Saint-Père. Mais nous sommes également très reconnaissants, et je remercie le cardinal Semeraro qui a présidé cette célébration avec une très forte participation et qui nous a parlé d'une manière si passionnée de la vie du serviteur de Dieu, en nous faisant découvrir de nouveaux aspects d'une histoire qui est encore à comprendre. Je vous remercie, vous tous qui êtes présents ici, et de manière particulière, les amis congolais, la famille de Floribert Bwanashui, sa maman et ses frères qui ont porté jusque nous cette relique, les vêtements que Floribert portait au moment de son martyr. Je remercie l'Église congolaise, l'épiscopat, le président de la conférence épiscopale, l'évêque de Goma et de manière particulière le cardinal Ambongo pour ses mots très affectueux à l'égard de la communauté Sant'Egidio. Merci, véritablement merci pour cette célébration qui a été pleine de prières et d'espérance pour le Congo, mais également pleine de solidarité pour son Église qui est déterminée à chercher la paix et la justice. Je salue la communauté Sant'Egidio de Goma, qui a été la plus bruyante parmi les Congolais présents. Et ma reconnaissance s'adresse à vous tous. Cette figure de Floribert qui a été dévoilée également par cette image qui nous est présentée a beaucoup à dire à cette époque marquée par le conflit et par le culte de la force et de l'argent.
Ce jeune de 26 ans a montré qu'il est possible de vaincre le mal par le bien, que la faiblesse n'est pas une condamnation et que la faiblesse de celui qui croit, qui prie et qui est avec les pauvres révèle une force. Aujourd'hui, dans l'humble Floribert, il y a une marque d'héroïsme qui manque si souvent dans nos vies résignées. Mais le bienheureux Floribert Buonaccioi, par son témoignage, nous fait découvrir cette marque d'héroïsme. À nous tous, à chacun d'entre nous, il fait découvrir une force de paix, de bien, de changement et de confiance en Dieu. Le prophète Isaïe nous dit « Le veau et le lion pâtureront ensemble, et un petit enfant les guidera. » Dans ce monde, il y a besoin de mettre ensemble le veau et le lion, l'agneau et le loup. Et qui les guidera? Un petit enfant. Aujourd'hui, ce petit enfant, c'est un jeune qui a été assassiné à Goma en 2006 et qui est devenu le témoin et le guide, comme nous l'a dit le cardinal, pour les plus anciens parmi nous, mais également pour les jeunes. Une lumière pour les jeunes congolais, africains et du monde entier. Il est devenu une lumière, un témoin et un guide pour les Congolais et, bien entendu, pour l'intégralité de la communauté de Sant'Egidio. Oui, un guide vers une vie qui puisse être généreuse et forte. Le bienheureux Floribert Buonaccioi montre à ceux qui sont résignés qu'il y a une espérance d'un avenir de paix et que cette paix et que c'est cette paix et cette justice que nous souhaitons à notre très cher Congo et en particulier au Kivu, un pays que nous portons toujours dans nos cœurs. D'autant plus avec le bienheureux Floribert. Merci.
Le mot de remerciement à l'instant d'Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant'Egidio.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Egli ha fatto cielo e terra.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Glorificate il Signore con la santità della vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Serviteur de Dieu, Floribert est donc bienheureux. C'est un grand honneur pour l'Église Famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo, a dit le cardinal archevêque de Kinshasa, de voir encore l'un de ses fils, un laïc reconnu comme modèle d'honnêteté et d'intégrité morale. Ce natif de Goma, né en juin 81, qui a refusé de céder à la corruption, qui, engagé dans l'école de la paix avec la communauté Saint-Égidio, s'est occupé particulièrement des enfants des rues. Et alors que sa mission à la frontière avec le Rwanda était de vérifier la qualité des denrées, il a refusé de se laisser acheter pour fermer les yeux sur les produits avariés qui tentaient de rentrer pour être distribués à la population. Il a été enlevé en juillet 2007, torturé, et a été retrouvé mort le 8 juillet, qui sera désormais la date de sa fête liturgique. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration en direct, en particulier à la communauté de Sant'Egidio, Roberto Zuccolini, Ugo Cianetti, toute l'équipe d'organisation, et bien sûr Valérie Régnier et la communauté Sant'Egidio en France. Il y avait une délégation importante venue du Congo. Vous avez entendu bien sûr le cardinal Ambongo, mais il y avait là aussi, on l'a entendu, l'évêque de Goma, Willy Ngugi Nengele, et puis Monseigneur Moutabé, le président de la Tchenko, et bien d'autres. Il y avait aussi des délégations du Bénin, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Malawi, du Mozambique, du Sénégal et du Togo. C'est une grande joie pour l'Église, c'est une grande joie pour la communauté Sant'Egidio, c'est une grande joie pour la République démocratique du Congo, et en particulier pour cette région du Kivu qui souffre. Voici donc un modèle d'honnêteté, d'intégrité et d'évangélisation désormais offert comme guide aux fidèles. Merci à tous ceux qui nous ont permis de nous associer à cette célébration en direct. On vous salue particulièrement, vous qui nous suivez depuis la RDC, tout spécialement depuis la région du Kivu. Merci à tous ceux qui à KTO ont assuré aussi cette retransmission. Très belle fête de la Trinité à toutes et à tous, et à bientôt.
KTO Radio. Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
connaissez-vous le meunier, son fils et l'âne ? Cette fable truculente de La Fontaine me semble négligée à cause de sa longueur ou de son préambule alambiqué. J'ose vous résumer l'affaire, ce qui enlève l'essentiel de son sel. Il s'agit donc d'un meunier, qualifié de vieillard, de son fils, adolescent, et de leur âne, qu'ils conduisent à la foire. Comment va cet équipage ? C'est la question. Nous assistons aux 5 configurations possibles. Le père monté sur l'âne, ou le fils sur l'âne, ou les deux sur la bête, ou encore l'âne marchant tout seul, et même porté par les deux nigauds au début du voyage. Pourquoi tant de changements ? Parce qu'à chaque fois, les gens croisés sur leur chemin se moquent du meunier et critiquent sa façon de faire. Toujours pour de bonnes raisons. Ils défendent tour à tour le père, le fils ou l'âne en accusant les autres de laxisme, paresse ou maltraitance. Las de s'être laissé influencer, le meunier finit par s'écrier « Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. » Il le fit et fit bien. Puis La Fontaine étend sa morale. « Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince, allez, venez, courez, demeurez en province, prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement, les gens en parleront, n'en doutez nullement. » J'ai lu que cette fable de jeunesse était dédiée à un ami de l'auteur, soumis à des conseils contradictoires sur la carrière à embrasser et sa vocation. Notons que le meunier ne se limite pas à la sage maxime « on ne peut pas plaire à tout le monde ». Il fait profession d'individualisme. « J'en veux faire à ma tête ». C'est cela que je voudrais creuser un peu. Est-il légitime d'en faire à sa tête, sans prendre l'avis de quiconque ? Comme tout gouvernant a son conseiller principal, tout homme a besoin d'un conseiller pour se gouverner. Il est bon de se poser, de réfléchir sous le regard de quelqu'un, de se confier à la même personne, ce qui suppose de trouver la bonne, formée à l'accompagnement, sage, expérimentée. Que serait devenu Charles de Foucault sans son célèbre accompagnateur spirituel, l'abbé Huvelin ? Ou Jeanne de Chantal sans François de Sales ? C'est en songe que l'évêque de Genève lui était apparu. « Voilà le guide bien-aimé de Dieu et des hommes entre les mains duquel tu dois reposer ta conscience. » Jeanne de Chantal est alors sous la coupe d'un directeur de conscience inapproprié qui nourrit ses scrupules. L'accompagnateur nous est libre, ne nous dit pas ce qu'il faut faire, mais nous aide à débrouiller les enjeux parfois complexes d'un discernement. Si j'ai revisité cette fable sur les multiples conseilleurs pour en parler avec vous, c'est parce qu'il m'est revenu en tête une conversation. Un ami insistait sur l'importance de se tenir à un conseiller spirituel et à un seul, au risque de s'égarer en papillonnant sous le vent des avis multiples, contradictoires, peu fondés. L'accompagnateur auquel nous nous confions régulièrement dans la prière nous connaît. Il est le plus à même de nous aider à suivre le Christ. Quelle chance d'être accompagné ainsi. Le renouveau de la longue tradition chrétienne de l'accompagnement spirituel bénéficie aujourd'hui à de nombreux laïcs. C'est une bonne nouvelle.
Tu l'oublies, parfois t'y penses, ou tu n'oses pas. Ça dépend un peu des circonstances et ça ne devrait pas. Tu l'oublies, parfois t'y penses, ou des circonstances, ça ne devrait pas.
Ma vie.
Écoutez KTO Radio.
L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette.
Monseigneur Janvier Yameogo, bonjour. Vous êtes prêtre originaire de Burkina Faso et vous travaillez au Vatican en tant qu'official du dicaster pour la communication. Alors avant de revenir sur votre mission actuelle au Vatican, est-ce que vous pouvez nous raconter exactement d'où vous venez, quelles sont vos origines et comment vous êtes devenu prêtre?
Je suis né le 19 septembre 1962, un mois avant le début du Concile Vatican II. Mes parents qui étaient croyants m'ont donné le nom du saint du jour. C'est pourquoi je m'appelle Janvier. Yameogo, qui signifie le seigneur de la forêt, lion. Et j'ai été baptisé 11 jours après ma naissance. Et mes parents, qui étaient vraiment très pratiquants, me portaient à la messe et au salut au Saint-Sacrement. J'ai toujours désiré devenir prêtre. Et j'ai été ordonné prêtre le 9 juillet 1989, encore en lien avec le monde, quelques mois avant la chute du mur de Berlin.
Votre pays s'appelait la Haute-Volta dans votre enfance, c'était une nation fraîchement indépendante. Vous veniez de quelle région du pays?
Moi, je viens de la ville de Kudugu. Pour la petite histoire, c'est le dernier bastion qui a été soumis à la colonisation en 1916. Et nous avons une réputation de résistance. Kudugu est resté comme un lieu de résistance civique. Même là, par exemple, tout récemment, ce qui a conduit à l'insurrection populaire qui a fait partir le président Blaise Compaoré en 2014 a évolué en lien avec Kudugu. Norbert Zongo, le journaliste qui a été tué, il est originaire de la ville de Kudugu.
Vous êtes issu d'une famille donc très catholique, mais le Burkina Faso est marqué par une mixité aussi avec une importante communauté musulmane. Comment se vivent ces relations
Je ferai un témoignage. En 2010, le président du Conseil pontifical pour la communication sociale, Monsieur Chély à l'époque, avait voulu qu'on aille 3 jours avant le début d'une assemblée qui se déroulait à Ouagadougou parce que mon papa était décédé au mois de juin. Et cette réunion avait lieu en septembre. Et Monseigneur Chély avait demandé s'il pouvait aller s'incliner sur la tombe de papa. Ce que j'ai organisé. Et dans l'organisation, j'ai fait venir un oncle qui était musulman, un autre oncle qui est pasteur protestant et un des anciens de la famille qui était le porteur du masque traditionnel, donc qui continue la religion traditionnelle. Donc, en réalité, dans nos propres familles, nous vivons ce dialogue interreligieux. Comme nous voulons vivre, bien vivre ensemble, nous faisons tout dans ce sens. C'est vrai que depuis quelques années, nous avons le djihadisme qui est arrivé, mais je persiste encore à dire que c'est une guerre qui nous a été imposée et qui est en fait externe à la mentalité même de nos peuples. Parce que les mentalités de nos peuples, musulmans comme protestants, comme catholiques, sont très imprégnées de la religion traditionnelle, qui est une religion qui favorise l'harmonie. Parce que nous sommes tous liés. Laudato si. Ça, c'est typiquement la mentalité de la religion traditionnelle. On respecte le minéral, on respecte les arbres, on respecte les insectes, on respecte tous les animaux. Même les chasseurs, quand ils vont tuer, dans la tradition, ils doivent faire une prière avant de tuer l'animal qu'ils tuent, pour dire « je ne te tue pas par méchanceté, j'ai besoin de ta chair et de ta peau pour ma famille, pour la survie de mon clan ». La compréhension traditionnelle forte, c'est que mettre le fer dans la terre, c'est blesser la terre. Mais on demande pardon à la terre pour la travailler afin d'en recueillir les fruits. Aujourd'hui, nous avons aussi comme un repli, un retour à la religion traditionnelle et à un certain panafricanisme. Parfois, cela ne se passe pas bien, mais je pense que nous tous, nous sommes engagés pour que dans un certain discernement, on retrouve le sens vraiment de l'harmonie sociale.
Alors, donc, vous avez été ordonné en 1989. Qu'est-ce qui vous a conduit ensuite vers la communication et quelles ont été vos missions successives?
Bon, il faut dire que la communication, j'ai toujours aimé le faire depuis que je suis enfant. Bon, j'ai pratiqué le théâtre toujours. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le cinéma. Et très tôt, depuis les années 80, j'étais un admirateur de Ousmane Sembène et je ne manque jamais le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Et donc, tout cela, c'est pas simplement le journalisme, mais toute la communication qui a été mon intérêt. Et c'était ma première vocation, tout en cherchant à être prêtre. Et curieusement, je suis allé au journalisme suite à un accident, évacué à Paris pour les soins. Je me suis inscrit en théologie et quand j'ai fini d'être guéri, mon évêque m'a dit il faut faire de la communication. Et c'est là que j'ai passé le concours de l'école de journalisme de Toulouse et j'ai été à l'école de journalisme de Toulouse pendant 3 ans. Et j'ai fini le diplôme en faisant un mémoire sur la contribution justement de la presse à la démocratie dans mon pays. C'était ma dernière année que Norbert Zongo a été assassiné. Et quand je suis rentré comme directeur diocésain de la communication dans mon diocèse, j'ai eu à gérer tout cela parce que, bon, comme je disais, Kourougou, un lieu névralgique, comme c'était la ville aussi de ce journaliste, beaucoup de manifestations se passaient là-bas et beaucoup d'opposition. La radio est le lieu par excellence où vous pouvez même faire parler les gens qui ne veulent pas parler ensemble. C'est là où la presse et la communication peuvent aider vraiment positivement la vie sociale. J'ai voulu que toutes les radios au niveau du pays se mettent ensemble pour créer une association parce que l'union fait la force et puis rien ne sert de se combattre. Bon, j'ai organisé une rencontre internationale au sous-régional avec les radios aussi de l'Afrique de l'Ouest. On a invité le Vatican et puis, bon, c'est comme ça que mon évêque a reçu une demande de la part du dicaster et de la secrétaire d'État demandant s'il voulait me mettre à la disponibilité du Vatican. Et c'est comme ça que je suis arrivé en 2006 au dicaster, ça s'appelait le Conseil pontifical pour les communications sociales. Et là, je me suis occupé surtout du secteur francophone et de l'Afrique. Bon, quelquefois, j'ai représenté le dicaster aussi pour des réunions internationales, notamment l'UNESCO. J'ai contribué à ce que la réunion des communicateurs français, journalistes qui se tenait à Annecy, ville de Saint-François-de-Sales. J'ai contribué aussi à ce déplacement à Lourdes, qui est un lieu marial. Et pourquoi Lourdes? Parce que dans ma spiritualité, Marie est par excellence le symbole de la communication de l'Église. C'est elle qui reçoit le Verbe de Dieu, la parole, qui se fait chair en elle, et après elle le donne au monde. Mon rêve, c'est que justement l'Église retrouve cette dynamique de la pastorale de la communication pour parler avec tous les communicateurs, pas seulement avec les communicateurs qui sont dans les médias d'Église, mais tous les journalistes.
Alors donc, ça fait près de 20 ans que vous travaillez au Vatican, vous avez travaillé auprès de trois papes, Benoît XVI, François et Léon XIV. Comment avez-vous vécu les évolutions de la communication autour des papes successifs durant ces 19 années maintenant?
Moi, j'ai été habitué, comme aîné de famille, à la diversité. Dès que je suis arrivé, ma première rencontre avec le pape Benoît, il m'a salué, il a été très sympathique, il a évoqué le cardinal Zungrana qu'il avait connu et tout. Donc, j'ai eu une relation que je peux dire personnelle avec lui à partir de ce moment. Je l'admirais beaucoup et j'ai dit à quelqu'un, ce pape, il ne va pas mourir, pape. Il va démissionner avant, bien avant qu'il ne démissionne. Donc, quand il a démissionné, ben, y en a qui m'ont dit, mais tu... Je dis, non, c'est de l'analyse, c'est tout. On a continué, bon, durant la préparation de l'élection de son successeur, avec beaucoup de journalistes, on rigolait, non? Et dans les discussions, je leur ai dit, vous savez, tous les pronostics seront déjoués, parce que je pense que l'Esprit Saint va se jouer de nous. Donc, quand l'élection du pape François est arrivée, bon, j'ai été naturellement surpris et heureux qu'il prenne surtout le nom de François. Je ne suis pas comme certains qui ont été vraiment outrés par sa manière de faire. Moi, je pense que Dieu donne à son Église, à chaque moment de l'histoire, le pape qu'il faut au moment qu'il faut. Et j'ai vécu ce moment avec lui. Et ça a été un moment de bousculement puisque la communication a été chamboulée au Vatican. Et ça a été un moment très difficile. Mais moi, je l'ai vécu dans la foi, en me remettant au Seigneur. Et quand est arrivé le moment avec sa souffrance, il est parti. Bon, c'est vrai. Bon, on a le nouveau pape qui est arrivé et on est heureux de l'avoir. Mais je dois souligner une chose que dans la dernière rencontre, quand j'ai eu à le saluer, et quand on s'est mis en ligne pour saluer le pape, j'ai tout fait pour être le dernier, en janvier dernier, parce que je voulais lui transmettre un message. J'ai dit, je suis le dernier à venir vous saluer, parce que je voulais avoir l'opportunité de vous dire de ne pas oublier l'Afrique, parce que l'Afrique, malheureusement, est oubliée au niveau même à ce haut lieu du Vatican, alors que bon, l'Afrique donne beaucoup à l'Église et c'est un endroit où l'Église encore et la foi est florissante et où l'Église a un bel avenir. Et je tenais à lui dire ça. Et il m'a entendu. C'était ma dernière fois de le saluer, de lui dire un message personnel. Et dans la foi, moi, je crois à la communion des saints. Et je pense que, comme je le lui ai dit, d'auprès de Jésus, il fera tout pour cela.
Nous découvrons depuis quelques semaines la figure de Léon XIV. On sait qu'il a été assez proche de l'Afrique lorsqu'il était prieur général des Augustins, notamment. Est-ce que vous avez l'espoir que ce pontificat soit aussi celui d'une attention particulière portée à l'Afrique?
Je vous dis immédiatement oui. Alors, je suis allé rapidement lire dès qu'il a été élu. Et j'ai dit à certains qui ne le savent pas, j'ai dit, il a du sang africain de par sa généalogie. Et il y a pas mal de Noirs africains, d'ailleurs, qui l'appellent cousin. Non seulement il a du sang africain de par sa généalogie, mais c'est quelqu'un qui connaît de l'intérieur l'Afrique. Et je connais Saint-Augustin qu'il cite régulièrement. Je vois déjà plein de signes. Il a une grande attention pour l'Afrique parce qu'il connaît l'Afrique et je pense que il fera beaucoup mieux que d'autres pour l'Afrique. Et il a la capacité de le faire.
L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.